on va avancer sur les mesures préventives pour éviter justement tous ces cas de harcèlement ou.
Alors, les mesures, effectivement, oui. Les mesures préventives, on en a beaucoup parlé hein, tout au long de la journée. On a d'abord Sandrine qui nous a évoqué tout le dispositif de préconisation et de mise en œuvre des préconisations individuelles et collectives quand on a une situation avérée de dysfonctionnement. Donc, à ce stade où on parle, deux hypothèses, où on a du harcèlement, où on a une violation, une discrimination, ou un harcèlement sexuel ou un agissement sexiste, et on envisage le disciplinaire selon les règles qui sont fixées par notre entreprise ou par nos règles de métier. Et donc, on poursuit la logique disciplinaire, selon ce qu'a dit Bernard tout à l'heure, c'est-à-dire réponse graduée, réponse individualisée, réponse en fonction de la gravité des faits fautifs. Voilà, ça, c'est effectivement l'analyse qui est faite par les RH sur la pondération de la faute, la pondération de la sanction, pardon, en regard de la faute. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, on n'a pas de fait qui pourrait relever du disciplinaire, mais on a vraiment un problème organisationnel et managérial. Hein. Je vous l'ai dit, chercher le harcèlement moral, il en restera toujours un différent relationnel. Chercher le harcèlement sexuel, et c'est la même chose. C'est d'abord deux personnes qui se disputent, ou deux ou plusieurs. Bref, il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre de la mésentente et pour laquelle, moi, l'employeur, j'ai mon obligation de prévention et de sécurité, je dois la mettre en œuvre. Et là, ces préconisations peuvent effectivement relever de ce qu'a dit tout à l'heure Bernard, la médiation, procédure de conciliation, procédure de discussion qui peuvent être autour d'un accord amiable pour vivre en paix au sein de la société, au sein de l'entreprise, je veux dire. Voyez, ou alors effectivement individualiser les solutions par le biais de mobilité, par le biais de retrait de poste, par le biais de suppression, peu importe. Il faut trouver effectivement une solution pour régler la situation dysfonctionnelle. Si les deux travaillent dans le même bureau et que ça se passe mal, ben vous l'avez compris, il y a un moment où il va falloir envisager une mobilité pour l'un ou pour l'autre, ou du télétravail pour l'un ou pour l'autre, ou peut-être négocier un accord avec l'un ou l'autre. Hein, parce que ça aussi, ça fait partie des solutions qu'on envisage, les ruptures conventionnelles, les départs, quand bien évidemment on ne peut pas faire l'objet d'un licenciement, et bien à ce moment-là, essayer de négocier un départ de l'un ou de l'autre, voire des deux, dès lors qu'effectivement les deux ont contribué à la dégradation du climat de travail ou du collectif de travail. Donc il y a toute une série de mesures que vous devez bien évidemment individualiser en fonction de la situation qui est portée à votre connaissance. Un point fondamental qu'on a répété depuis ce matin, et je pense que là, je parle sous le contrôle de Jean-Louis, c'est que dans tous les dossiers que moi j'ai eu à traiter sur ces sujets-là, il a été vérifié si oui ou non les personnes qui étaient en encadrement étaient formées. C'est simple. C'est-à-dire que pour manager, c'est souvent d'ailleurs, pendant de longues décennies, on a considéré que le management, ça pouvait être une inspiration, un talent, ça vous était totalement inné. Et qu'en règle générale, eh ben, quand ça se passait bien, c'est que la personne était charismatique et talentueuse, ou qu'elle avait une autorité naturelle, comme on dit, ou alors, effectivement, quand ça se passait mal, c'est qu'a priori, c'était un mauvais manager qui ne savait pas communiquer, etc. Dans les deux cas, quelle que soit l'approche que vous pouvez en avoir, sachez que pour un juge, sa grille de lecture, ce n'est pas de savoir si oui ou non il avait des talents innés ou s'il ne les avait pas. C'est de savoir si oui ou non l'employeur a bien répondu à son obligation en matière de formation. J'insiste sur ce point parce que l'accord national interprofessionnel de 2020, du 10 décembre 2020, qui a donné naissance à la loi santé du 2 août 2021, l'accord national interprofessionnel sur le télétravail du 26 novembre 2020, tous communément indiquent, et d'ailleurs même les décrets d'application derrière, qu'il faut former. Vous avez entendu parler du passeport de prévention. D'ailleurs, il y a une formation qui a lieu bientôt, là, le 8 février prochain, sur le passeport de prévention. Eh bien, le dénominateur commun, c'est de savoir si oui ou non les collaborateurs sont bien formés sur les métiers qu'ils exercent, tout simplement. Et qu'en réalité, sur des questions qui sont relatives à des comportements relationnels les uns avec les autres, manager, ce n'est pas un talent. Manager, c'est une compétence. Et d'ailleurs, pour tous ceux, celles et ceux qui sont licenciés à la suite des faits de harcèlement moral ou des faits de harcèlement sexuel, comprenez bien que 90% d'entre eux évoquent la problématique de la formation. Et on a le premier arrêt qui a inauguré cette question, qui est un arrêt Canal Plus du 8 novembre 2011, qui est venu dire que ce n'est pas la peine de le sanctionner pour des faits de harcèlement moral, dès lors qu'il ne sait pas ce que c'est, et dès lors que cette personne en question, c'était un cadre dirigeant, n'est qu'une simple courroie de transmission des orientations de l'employeur. Et n'oubliez pas France Télécom, qui est venu dire exactement la même chose. Il y a des décisions qui sont prises tout en haut, il y a des courroies de transmission qui innervent les décisions qui sont prises. Eh bien, on a condamné ceux qui l'ont fait en toute connaissance de cause, c'est-à-dire les gens formés, et on a relaxé en cause d'appel ceux qui n'étaient pas formés ou ceux qui, effectivement, ne savaient pas exactement la décision qui avait été prise ici et là. Donc, pour moi, la première des recommandations dans cette trousse de prévention, c'est l'information, la sensibilisation et la formation. Tu veux ajouter quelque chose ?
Oui, deux choses. Dans le contentieux particulier du harcèlement moral, la Chambre sociale a rendu plusieurs arrêts à une certaine époque, dans lequel elle a bien insisté sur les trois temps. Elle a dit en amont, formation, information. Oui. D'ailleurs, elle disait information, formation, je crois. Et en aval, quand il y a être réactif. Elle avait rendu plusieurs arrêts en disant attendez, c'est ça qui compte en termes de méthode. Formation, information. D'abord, est-ce que les gens sont au courant que ça existe ? Donc la formation est essentielle. Et puis ensuite, être réactif. Et tu citais différents accords interprofessionnels. J'ajouterai à cette liste, qui est une mine, les accords interprofessionnels, on apprend toujours plein de choses. C'est l'ancien accord du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail, dans lequel les partenaires sociaux nous expliquent, alors c'est mon langage à moi, ils disent attention aux violences qui sont les premières violences à bas bruit. Et ils évoquent les incivilités. Il dit le commencement du début des violences, c'est quand on commence à ne pas être attentif à des petites formes d'incivilité légères, puis moins légères. Et noir sur blanc, les partenaires sociaux ont attiré l'attention de tout le monde en disant vérifiez que les incivilités ne se développent pas dans votre entreprise, qui pourraient se gangréner et dégénérer en violence, etc. Donc on est vraiment sur ce registre-là. Quoi.
Éviter que ça rentre dans la culture d'entreprise.
Voilà. Le registre des accidents du travail bénin est parfois très instructif.
Tout à fait.
Jean-Louis. Oui, l'obligation de formation et d'adaptation au poste, hein, puisque c'est comme ça que c'est précisé, s'applique à tous les salariés et d'autant plus aux managers. Hein, je pense qu'effectivement, Camille l'a dit, c'est une des pierres angulaires de la trousse à outils. Ça doit être aussi une des pierres angulaires du document unique, hein, parce que tout ce qu'on va vous dire là, tout ça doit être regroupé dans un gros paquet qui s'appelle le DUERP, qui est le document unique d'évaluation des risques professionnels. Et moi, maintenant, je le demande systématiquement. C'est-à-dire, dès que j'ai un sujet de ce type, systématiquement, je demande communication du document unique. Hein. Et ça, c'est notamment dans le cadre d'une demande de condamnation pour non-respect de l'obligation de prévention et de sécurité.
Jamila ? Donc, effectivement, la formation basique. Alors, vous allez dire, oui, mais par quel bout on prend le sujet ? Ben, très bien. Il est vrai que alors, le passeport de prévention, tel qu'il est voulu par les derniers textes, concerne d'abord des problématiques qui sont en lien avec de l'exposition à des produits cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, c'est-à-dire à des agents chimiques dangereux. Je ferme la parenthèse là-dessus. Néanmoins, vous comprenez bien que pour l'instant, c'est effectivement ce sur quoi on est en train de mobiliser les employeurs sur ces risques-là, parce que c'est des risques chimiques qu'on connaît bien et qu'on maîtrise et qu'on encadre, mais que viendra le jour, et c'est, je pense, assez imminent, c'est du moins, je pense, le souhait de la Direction générale du travail, que d'élargir et d'ouvrir ces formations à tout autre sujet en lien avec les relations interpersonnelles au travail. Il faut savoir une chose, c'est qu'au hit parade des maladies professionnelles, la première des maladies professionnelles, c'est les troubles musculo-squelettiques, bien évidemment, c'est le tableau 57 et 98, et juste derrière, vous avez les risques psychosociaux. Et en troisième position, vous avez les cancers professionnels. Ce qui veut dire concrètement qu'on est sur une problématique de santé publique. Et que cette problématique de santé publique, on a bien compris qu'elle dépassait la sphère de l'espace public et qu'elle était maîtrisable en entreprise. Parce que c'est, on va dire, essentiellement les premiers pourvoyeurs de risques psychosociaux, c'est les entreprises dans lesquelles, effectivement, on est appelé à travailler une grande partie de nos vies. Et que c'est les dysfonctionnements ou les problématiques organisationnelles, le climat organisationnel, comme j'aime à dire, qui en réalité peut être la cause de ces problématiques qui ensuite se développent sous forme de pathologies ou d'arrêts maladie, sans basculer dans la maladie professionnelle en tant que telle. Donc on est bien d'accord sur un point, et là, Jean-Louis vient de le rappeler, c'est-à-dire que l'information, formation, sensibilisation, avec l'obligation de formation et d'adaptation, j'ouvre la parenthèse sur un arrêt qui est passé inaperçu, 8 octobre 2020, qui a rappelé à l'employeur l'obligation pour l'employeur de former les personnes. Et ce, accrochez-vous bien, même si elles n'en ont pas fait la demande au cours de leur carrière professionnelle, et même si ce n'est pas forcément en lien avec leur métier. Vous voyez ? Donc, pour moi, la Cour de cassation, et vous le savez bien, c'est quand même une caisse de résonance du législateur. C'est des gens qui se parlent et qui se rencontrent. Hein. Et c'est un moment, effectivement, des règles qui se fixent dans le marbre et qui sont destinées à avoir un code de conduite sur la protection de la santé et de la sécurité des salariés. J'ajoute en outre que c'est pas non plus, ça apparaît pas ex nihilo de nulle part. Ça vient aussi des textes européens. Ça vient aussi de la Convention 190 OIT qu'on a ratifié au mois de juin 2021, qui concerne les violences au travail, qui concerne le harcèlement au travail, et qui concerne, tu l'as dit tout à l'heure, les violences domestiques, pour lesquelles on a aujourd'hui l'obligation en tant qu'employeur eh bien, de mettre en place, enfin l'obligation, on verra ça d'ici quelques années, de mettre en place des dispositifs qui visent éventuellement à prévenir ce type de situation, des violences intrafamiliales. Donc on voit bien que c'est le même sujet dont on parle, et cette convention OIT, vous avez toute une partie qui évoque, je vous le donne en mille, ben la formation des managers ou la formation des personnels, quels qu'ils soient. Donc ça rejoint bien effectivement ce qu'on est en train de dire. Et alors, on terminera sur le corpus normatif de l'entreprise, c'est-à-dire les chartes, les accords d'entreprise, le règlement intérieur, qui tous... Alors, deux hypothèses. La première, c'est le règlement intérieur. Vous l'avez sous les yeux. Vous devez le mettre à jour au regard de la loi Waserman sur le lanceur d'alerte, parce qu'il y a, à mon avis, une majeure partie, depuis septembre 2022, des règlements intérieurs qui sont obsolètes. Alors, la particularité de cette loi, c'est que pour l'instant, on attend encore les décrets d'application, notamment sur le dispositif qui protège les lanceurs d'alerte et les sanctions qui sont afférentes. Mais moi, en ce qui me concerne, et en tout cas, c'est le conseil que je vous ai donné, je vous l'ai mis d'ailleurs dans les slides, je vous invite effectivement d'abord à insérer les dispositions qui sont en rouge, qui sont celles que la loi vous contraint à insérer dans votre règlement intérieur. Et derrière, éventuellement, si vous avez déjà un dispositif, eh bien, de l'intégrer dans le règlement intérieur avec les sanctions et avec effectivement tous les éléments qui sont contenus dans cette loi, en attendant les décrets d'application. La question est la suivante, question judicieuse qui m'a été posée tout à l'heure, c'est est-ce que oui ou non, quand on a que fait-on de notre mode opératoire d'enquête interne, alors même qu'on est contraint d'insérer un dispositif de whistleblower, c'est-à-dire de lanceur d'alerte éthique. Eh bien, là, il va y avoir une réflexion en interne qui va être de substituer l'un à l'autre, vous l'avez compris, en sachant que celui du lanceur d'alerte est beaucoup plus large que celui de l'enquête interne, mais qu'il aura comme vertu déjà d'être encadré, formalisé, selon ce qui sera dit naturellement dans les décrets. Et pour les chartes, où vous en avez ou vous n'en avez pas, les chartes respect, les chartes de bonne conduite qui évoquent les comportements sur lesquels on peut s'appuyer pour éventuellement envisager des sanctions, sanctions véniales ou sanctions lourdes, vous l'avez compris là aussi. Quand elles sont annexées au règlement intérieur, elles ont une valeur normative de règlement intérieur et en ce sens, elles sont opposables au même titre que le règlement intérieur. C'est le sens d'un arrêt du 5 mai 2021 qui disait qu'effectivement, ils étaient opposables. Ou alors, elles interviennent ces chartes ou ces documents comme éléments du dispositif normatif sans lui accorder de valeur juridique particulière. Et l'opposabilité de cette charte ne pourra être démontrée que si le salarié en a pris connaissance et a pu y souscrire dans les formes qui sont requises par le droit, c'est-à-dire la date et la signature du document en question. À défaut de quoi, elle sera considérée comme un élément du contexte global, dont on pourrait supposer qu'il a connaissance, mais qu'il a décidé malgré tout de méconnaître au regard des règles applicables au sein de l'entreprise. Mais ça va relever du contentieux normal social.
Alors avant de passer la parole à Jean-Louis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, parce que je vois que le temps passe. Jean-Louis.
Oui, justement, sur cette problématique de charte, donc Jamila l'a dit, si elle n'est pas annexée au règlement intérieur, pour qu'elle soit annexée au règlement intérieur, il y a des formalités à respecter qui sont, premièrement, qu'elle soit soumise à l'avis des instances représentatives du personnel, qu'elle ait été transmise à l'inspection du travail et qu'elle ait fait l'objet de formalités de dépôt de publicité. Oui. Si ce n'est pas le cas, elle peut pas être considérée comme normative et annexée au contrat de travail et annexée au règlement intérieur. Pour qu'elle soit considérée comme annexée au contrat de travail, il faut qu'elle ait été communiquée au salarié, qu'il ait pu en prendre connaissance et qu'il ait paraphé les pages. Si on n'a pas ces deux cas de figure, la charte, c'est juste un code de bonne conduite, mais qui n'a pas de valeur normative et donc qui ne peut pas être imposé. Deuxièmement, je demande aussi systématiquement souvent le règlement intérieur, et le constat qu'on fait, c'est qu'ils sont rarement à jour. Hein, on a cité le nouvel article 13.21.2, mais il y a aussi le 11.53.5 qui précise que l'employeur doit porter à la connaissance salarié les règles en vigueur, les actions civiles et pénales existantes et les autorités à prévenir en cas de harcèlement sexuel au travail. Et ces éléments doivent être mentionnés dans le règlement intérieur qui, je vous le rappelle, est obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 20 salariés.
Oui, tout à fait.
Alors, merci. Alors, est-ce que vous avez des questions? Vous avez une question, là? Non.
Je me suis fait un jugement là-dessus.
Alors, une question conclusive. Peut-être à Bernard Goriot. La jurisprudence sur la procédure d'enquête est-elle désormais stabilisée ou doit-on s'attendre à de nouvelles évolutions prévisibles? Et si oui, lesquelles? Oh, la bonne question, oui, alors, finale.
Je vais vous répondre par une note. Il est très difficile de faire des prédictions, ouais, surtout en ce qui concerne l'avenir. C'est, je ne sais plus qui avait dit ça.
Surtout écoutez, en ce moment où la Chambre...
En ce moment, ça bouge. La Chambre est en train de revoir certaines choses, donc je ne peux pas vous répondre avec certitude. Je peux faire des hypothèses, mais vous allez les faire vous-même à l'occasion de ces questions conclusives. Je pense que ça va bouger. Ça va très certainement évoluer. Il y a une vraie tendance, je veux dire des banalités, mais il y a une prise en compte de toutes les formes de violence dans notre société aujourd'hui. C'est devenu extrêmement important. Pendant la pause, j'évoquais les dernières statistiques de la Direction des affaires criminelles et des grâces sur les contentieux en matière de tribunal correctionnel. En un, vous avez la toxicomanie, les drogues et tout. En deux, les violences conjugales en ce moment. Les tribunaux correctionnels dans toute la France sont en catégorie. En deuxième série de contentieux, les violences conjugales. Donc il y a une vraie... La parole s'est libérée, donc c'est une bonne chose. Mais ça se traduit par des contentieux qui ne sont pas encore des contentieux de masse, n'exagérons rien. Enfin, qui quand même... Donc oui, je pense que ça va énormément bouger sur les violences. Et toute chambre de la Cour de cassation confondue. Je pense que dans différents domaines, on aura des... Je pense aussi à la violence économique en matière commerciale. Vous allez trouver ça peut-être ridicule, mais ça, c'est une vieille notion, la violence économique. Oui. Ça pourra aussi jouer.
Mais il y a surtout aussi le fait qu'on est aussi sur des problématiques de formalisme qui sont quand même très importants. Donc oui, ça risque d'évoluer parce que au cours de l'année 2022, on a eu une dizaine de décisions de la Chambre sociale concernant le formalisme de l'enquête. L'audition du mise en cause, la recevabilité du rapport, les tiers intervenant dans le cadre de ce rapport, le contenu même du rapport, la datation du rapport. Donc on voit bien qu'il y a... c'est les suites de l'arrêt du 27 novembre 2019. On ne peut pas imposer à l'employeur de diligenter une enquête qui n'est pas défini, dont le mode opératoire n'est pas défini, et que chacun a la liberté de mettre en œuvre selon, effectivement, les éléments dont qu'il a à sa portée et à sa disposition, sans assurer un minimum de garantie, et notamment de respect des droits de la défense et de l'égalité des armes. Pour moi, c'est mon avis.
Ouais, personne.
Non, mais je partage. Et encore une fois, le document unique est devenu la pierre angulaire de toutes les actions de l'entreprise. Donc, s'il y a un conseil à donner, c'est mettez-le régulièrement à jour. Et voilà, tout ce que ça entraîne derrière en termes d'action de formation, de prévention, c'est devenu un document incontournable. C'est la loi du 2 août 2021 qui le met au fronton des valeurs.
Alors c'est vrai, ça me fait penser, parce qu'on parlait de violences conjugales, que c'était de plus en plus pris au niveau de la société, mais aussi au niveau des accords d'entreprise et conventions aussi, les accords collectifs de branche, où c'est vrai que là, cette année, nous, au quotidien, on a vu beaucoup d'accords qui accordaient, par exemple, là, je cherchais dernièrement Boursorama, qui étend le don de jours de repos aux salariés aux victimes de violences conjugales. Et donc, les victimes peuvent avoir 10 jours de dons. Et à chaque fois qu'on organise cette journée, je parle de la branche de la publicité, qui a fait un accord justement sur tout ce qui est harcèlement pour casser la... Enfin, parce qu'il y avait vraiment une culture et on voit que... tu parlais des blagues un petit peu graveleuses, ouais, sexy, ouais, si je puis me permettre, où c'est le commun des mortels. Ça ne choquait pas et il y a une prise de conscience qui est assez importante.
Il faut lire les recommandations qui suivent la Convention 190 de l'OIT. Il y a une recommandation aussi qui a été publiée avec des mesures. Alors, ce sont des mesures très générales, mais il y a dans ces mesures, ce que tu viens de dire, Ils se sont inspirés directement de ça, sur les mesures qu'il y a dans cet accord.
Et moi, j'ai vu passer, me semble-t-il, mais je ne me souviens plus exactement, un accord AXA sur les violences intrafamiliales.
Oui.
Et sur la prise en charge.
C'est dans le quotidien, en fait.
Dans le quotidien, voilà. Oui, donc, la prise en charge des violences intrafamiliales par l'employeur. Oui.